place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Salut, pis somme, le hopla geist, du sind mal wieder heute Morgen. Wie geht's denn, pis in Levi Litt? Et oui, nous revoilà avec mon émission Fais-moi une place, comme tous les mercredis, à la même heure, juste avant le Meta S, le repas de midi. Et quel plaisir, quelle joie de vous retrouver, chères grandes oreilles radiophoniques. Vous avez senti, vous avez constaté, les journées se rallongent doucettement. On grappille de la lumière chaque jour et cette luminosité fait briller et remplit nos cœurs. Et aujourd'hui, je reçois une lumière dans notre studio, une fée aux doigts d'or, une rockstar de la musique classique au talent incommensurable. J'ai fait une place sur le rebord du monde à Caroline Sablerot, une pianiste, une virtuose que j'admire. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Comment
André.
Ça va dans ton monde?
Ah bah dans mon monde, tout va bien.
Mais je suis très heureux de te rencontrer, de te mettre, d'être derrière ce micro. Moi alors comment tu gazouilles? Comment ça va?
Mais ça va plutôt bien, puisque justement, comme tu l'as bien dit, la lumière reprend un peu de place dans ces jours. Donc pour moi, c'est toujours mieux.
Quand les journées,
ouais, quand les journées rallongent. Ouais.
Rallongent, ouais. Ouais, c'est bien. Ouais. Et alors, tu es une pianiste, tu joues du piano depuis ta tendre enfance?
C'est ça, j'ai commencé le piano vers 9 ans. Je pianotais un petit peu, puis je faisais un peu de percussion, puis on chantait à la maison beaucoup.
Les chants de quoi? Les après-midi après les repas, vous étiez en famille, vous chantiez des chansons
On chantait surtout des airs d'opéra, là,
ah, ouais.
Chantais,
ah ouais. Ah oui, ouais. Donc c'est pas de la musique qu'on entend à la radio, de la musique Julien Clerc et autres, c'était toujours de la musique classique.
Ouais. Souvent, oui.
Souvent. Et alors, tu as été bercée pendant ton enfance dans la musique. Ton père est un virtuose également, il a joué à l'orchestre de Strasbourg apparemment,
ouais.
C'est ce que tu me disais. Qu'est-ce qu'il jouait comme instrument, ton papa?
Il jouait du basson. Il était basson solo à l'orchestre de Strasbourg. Et effectivement, j'ai grandi avec tout le répertoire du basson, avec la sonorité du basson français, qui est chaud. Et
ton père t'emmenait au concert?
C'était un petit peu la garderie. Hein, on se retrouvait les enfants de musiciens et on courait partout, c'était magnifique.
C'était pendant la répétition, j'imagine.
Voilà, c'est ouais. Ça.
Et là, tu as entendu ces sonorités qui t'ont tout de suite transmis quelque chose?
Oui, en tout cas, j'ai vite... Je pense que j'étais enfant, donc le son m'amenait au jeu, en fait. Bien sûr, les mélodies... m'apportait plein d'idées, plein d'émotions, et très jeune ça. Ouais.
Et pourquoi tu as choisi le piano, comme tes frères et tes sœurs également, ils ont fait du piano?
Ah non, mon frère a fait de la clarinette un peu, et ma sœur du violon, elle a chanté un peu, elle a fait des claquettes, enfin... Et moi le piano, ça s'est un peu imposé à moi, c'est-à-dire que je jouais pour mon plaisir, puis en fait, ce son, cette vibration-là, cette couleur-là, me touchait beaucoup, oui.
Et pourtant, l'instrument, il faut une grande rigueur pour le piano. Il faut jouer sans cesse, pour apprendre.
Oui, mais finalement comme il y a toujours cette... Avec la musique, on a toujours un retour. C'est-à-dire que oui, il faut travailler, mais le retour, c'est qu'au fond, ça nous raconte une histoire, ça nous fait voyager.
C'est un livre ouvert, tu veux dire, la musique?
Oui.
Absolument. Oui. Tu n'aurais jamais pu te passer de musique dans ton adolescence comme aujourd'hui. C'est vital pour toi.
Pour moi, oui.
Et tu écoutes aussi la radio chez toi? Tu mets tout le temps de la musique chez toi à la maison aujourd'hui?
Alors non, je ne mets pas la radio. Tout simplement parce que c'est comme si le son, la rencontre avec, avec le son, avec les mélodies, avec un compositeur. En fait, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps, j'ai besoin que cette rencontre, elle se fasse. Et c'est pour ça que je ne peux pas écouter de la musique tout le temps.
Ça te perturbe ?
Bah, il faut que je sois disponible. Il faut que je sois disponible et que j'ai besoin de... d'écouter vraiment, en fait, j'arrive.
Tu veux dire, même dans la journée, quand tu es chez toi, tranquille, tu as besoin de silence pour te concentrer sur ce que tu as à faire le lendemain et pendant tes journées. Même on verra ça tout à l'heure, tu es aussi prof de musique, tout ça. Et alors, parle-moi de ton piano, de ton adolescence. C'était un piano droit qui vient de tes arrière-arrière-grands-pères. C'était
ça.
Du temps de Napoléon, ça. C'est quoi?
C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un piano qui a été retapé et
il était droit ?
Un piano droit, ouais.
Pas un piano à queue. Hein.
Toujours, ouais. un beau gaveau en noyer, donc ancien, avec les moulures et tout, mais...
Il y avait des bougies sur les côtés, des bougeoirs.
Voilà,
comme ça.
Les bougeoirs, ouais. Avec les touches en ivoire.
Waouh, c'était grandiose.
Très beau, et... Ouais.
Tu l'as toujours, ce piano ?
Je l'ai toujours,
ouais. Ouais. Chez toi, à la maison ?
Toujours.
Waouh, c'est extraordinaire de garder ça. Et quelle est un peu la différence entre un piano droit et un piano à queue ? C'est quoi la différence entre les deux, sur lesquels tu joues aujourd'hui quand tu fais des concerts ?
Bah, un piano droit, tout simplement, si vous regardez un piano droit, il est vertical.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc les touches sont verticales. Les cordes sont verticales. Voilà, là. Et un piano à queue, en fait, les cordes sont à l'horizontale. Donc, ça ressemble plus à une table, comme ça.
Et si les sonorités sont bien meilleures sur un piano à queue ?
Bah, c'est-à-dire qu'un piano, la sonorité va jouer par rapport à la longueur des cordes. Plus les cordes vont être longues,
d'accord.
Plus le son va être riche et profond. Ouais.
C'est un instrument de percussion avec des petits marteleux qui tapent sur les cordes.
Exactement,
qu'on
active en appuyant sur la touche, en fait.
D'accord, mais là on va faire juste reposer un tout petit peu les oreilles, mon cher Lucas. Mets-nous la musique numéro 1 de Schubert. Tu bouges pas, t'es comme pétrifié quand tu entends cette musique. Hein ?
Oui.
Et parce que cette musique-là, tu la joues en concert.
Alors, je la joue en concert et j'ai surtout eu la chance unique d'écouter Maria Jopires et Ricardo Castro travailler cette pièce et l'enregistrer. Et à mon tour, je la joue avec Samuel Aznar, qui est un ami... grand musicien avec qui on partage le piano avec nos...
À quatre mains, tu veux dire ?
Waouh !
C'est une pièce à quatre mains, là, ce qu'on a écouté.
C'est ça, ouais. Et le quatre mains, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Alors, en plus, après ces années de repos un peu forcé, et du coup, de pouvoir vivre la musique avec les autres... Et
tu me parles de ce que tu fais en ce moment.
Oui.
Ce piano, est-ce que ça, on peut dire que c'est un instrument qui ouvre l'âme et qui fait passer des émotions ?
Ah, bien sûr, oui.
C'est ce que tu ressens quand tu joues ?
C'est ce que je ressens. Alors, vraiment ce que j'ai véritablement compris, je pense, depuis toute petite, c'est que quand je joue, il se passe des choses en moi, ça c'est sûr.
Quoi, alors, par exemple, explique-moi. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, des émotions fortes, hein. Ça peut être passer de la colère à la grande joie, à la mélancolie, à la révolte. Et j'ai compris, en fait, au fur et à mesure de mes années d'apprentissage, mais surtout grâce à des rencontres comme Rena Cherchevskaya, avec qui j'ai travaillé, qui m'a fait comprendre qu'en fait, derrière ces notes et ce que je ressentais, bah, il y avait un compositeur, il y avait une histoire, une vie derrière. Et donc, j'ai commencé petit à petit à m'intéresser un peu l'envers du décor, quoi. Derrière les notes, bah, il y a une vie derrière.
Évidemment, quand tu es en concert, tu penses que les gens ressentent la même chose que toi tu ressens? Quand nous on écoute avec des yeux, les oreilles ouvertes, les écoutilles ouvertes, ta musique, j'ai déjà eu l'occasion de t'écouter, c'est ce que tu veux partager avec les gens?
En tout cas, j'espère juste que d'écouter par exemple du Schubert ou que les gens après un concert partent changer. Oui, changer. Pourquoi? Parce que finalement, nous, en tant que musiciens, on n'a pas de pouvoir magique sur la musique, mais par contre, il y a une rencontre qui se fait.
Tu transmets quand même quelque chose, des œuvres.
C'est sûr qu'il y a une rencontre entre l'interprète et le compositeur, et à nous, musiciens, de pouvoir transmettre ses émotions, transmettre le message qu'il a voulu, Schubert par exemple. Et donc du coup, oui, si à mon tour, je peux transmettre ça et j'arrive à transmettre des émotions ou un peu de la vie de Schubert. Alors,
et tout à l'heure, je parlais un petit peu de rockstar. En fait, effectivement, tous ces grands interprètes comme Schubert, comme Mahler, comme Mozart, ce sont toujours des gens à la mode aujourd'hui. Ça ne va jamais disparaître, cette musique. Elle est toujours actuelle et pourtant, elle est ancienne, cette musique. Je veux dire, il n'y a pas de renouveau comme ça. C'est toujours ces œuvres-là que tu retravailles.
Oui. Et ben, ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que en fait, je pense que déjà, ce sont des génies.
Absolument.
Des génies. Donc, ouais. S'ils sont là encore aujourd'hui, c'est bien pour ça.
C'est qu'on ne fait pas mieux.
Voilà. Bon. Et après, ce que je trouve, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, bah, par exemple, là, je suis dans un autre projet avec une comédienne qui s'appelle Anne Cantino. Et on travaille sur La Tempête. De Beethoven et de Shakespeare.
Wow.
Et on se demandait, en fait, moi j'étais très intriguée.
Ouais.
Le mystère, qu'est-ce que c'est ce mystère sur la tempête, là? Parce que la sonate numéro 17 de Beethoven, on l'appelle la tempête. Or, Beethoven l'a pas nommé la tempête. Mais quand on lui disait comment on peut comprendre cette sonate, il répondait, alors il faut lire La Tempête de Shakespeare.
Ah ouais, oui, c'est... Ouais, ouais,
et alors, à partir de là, de cette intrigue, en fait, de ce mystère, eh ben, avec Anne, on cherche, on fouille dans La Tempête, dans l'histoire de Prospero, dans les correspondances et la vie de Beethoven, et sa surdité, et tout ce qui est... Tous des éléments où on peut mettre en correspondance, en fait, cette sonate. D'accord. Et l'œuvre de Shakespeare.
C'est très intéressant ce que tu dis. Alors, je voudrais aussi te parler de ce clavier noir et blanc. Ouais. Il y a combien de touches sur ce... Et il y a des pédales wah-wah sur ce... Raconte-moi un peu tout ça, Caroline.
Alors, il y a 88 touches.
Ouais, en noir et blanc. C'est 88 en totalité.
C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il y en avait un petit peu moins. Aujourd'hui,
sur les clavecins, par exemple?
Non, même sur les pianos fortés.
Ah, ok.
Même sur des pianos du 1900-1920, on peut trouver des pianos avec 75 touches. Pas 85 touches.
Ah oui, ok.
Ouais. Et aussi...
Et là, tu n'es pas perturbé quand tu joues sur un piano comme ça, quand il y en a 88 et 85 ou il y en a un peu moins?
Bah, c'est rare. Hein,
c'est rare, ouais. Tu ne joues pas sur ce genre de choses. Alors, il y a aussi quelque chose que je voulais savoir avec toi. Est-ce qu'il faut avoir, quand je vois des pianistes jouer, je vois qu'ils ont des mains à rallonge, mais des doigts extrêmement longs. Et fais-moi voir tes mains, Caroline, que je regarde. Mais dis donc, tu as plein de bagues, bien sûr. et tu as des petites mains. Comment tu fais?
Alors, la main, c'est toute une histoire. Alors, la main, en fait, oui, j'ai une toute petite main. Je ne suis pas grande, donc...
C'est un grand talent, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même ça qui est important. C'est, moi aussi, je suis un petit homme, mais bon, après, je sais que les mains, j'aimerais bien savoir un peu comment tu fais pour jouer. Tu as des plus petits pianos ? Ton piano est plus ramassé ?
Ah non. Non, c'est peut-être une idée. Hein. Mais non. Mais par contre, le répertoire du piano est tellement grand. Je vais faire un peu l'impasse sur les pianos, le répertoire où il faut vraiment de grandes mains, Liszt, Brahms, ça va,
C'est peut-être pour cette raison que tu joues à quatre mains, parce que tu as des petites mains.
Ah non, pas du tout.
Non, c'est de l'humour, hein, l'humour. Écoute, je crois que c'est très intéressant quand tu me dis là, voilà, on va se faire reposer un tout petit peu nos écoutilles, les oreilles, et on va écouter la sonate de Mozart. Vas-y, mets-nous un peu de musique, Lucas. Derrière l'aquarium, c'est Thomas, bien entendu, notre ami Thomas, qui est en régie. Écoute, on parle maintenant de cette belle musique, hein, c'est magnifique, je t'ai vu, là, t'étais complètement concentré quand tu écoutes du Mozart. Mais c'est aussi un univers fabuleux, le piano, c'est de la poésie que tu maîtrises à perfection, hein, Caroline.
Oh, c'est très gentil.
Bah non, mais c'est vrai, attends, ne sois pas humble. Moi,
si, parce que la musique et la pratique d'un instrument, en fait, face à ça, il faut être humble pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir finalement être dans le vrai. Je pense que si on n'a pas cette humilité face à ces grands génies, on ne la comprend pas vraiment, cette musique.
Qu'est-ce que tu as compris là pendant cette ère de Mozart? Là, je te voyais complètement concentré. Qu'est-ce que tu avais comme image dans la tête?
Alors, ça me touche beaucoup déjà parce que mon maître, Maria-Jo Pires, elle a une toute petite main, donc on parlait de toute petite main.
Ah ouais?
Et elle a vraiment une toute petite main et son répertoire vraiment de prédilection, c'est Mozart. Et en fait, cette mélodie-là, je la chante pour que ma fille s'endorme.
Ah, j'ai quelle chance, elle a ta fille. Elle s'appelle Salomé, hein, je crois, lui fait un petit coucou. Mmh. Et donc, elle a la chance de t'entendre chanter du Mozart et elle s'endort facilement avec cette musique. Maintenant, on va venir à tout à fait autre chose. Oui. Caroline, je sais aussi que tu as un handicap visuel, hein, que tu es une malvoyante. Oui. Alors, comment tu fais avec le piano et dans ta vie de tous les jours? C'est une maladie que tu as eue quand tu étais petit enfant. Tu as perdu ta vue, c'est ça?
C'est ça. Alors, ça s'est déclaré à l'âge de 6 ans, mais en fait, on ne sait pas trop à quel moment j'ai perdu la vue, en fait, mais... Mes parents ont compris quand j'imaginais des choses dans le jardin qui n'existaient pas.
Ah ouais, quand tu as fait de la lecture à l'école, peut-être aussi,
aussi. Non
quand tu lisais, ils ont vu que tu n'arrivais pas à lire. Et alors, c'est comment la vie de tous les jours avec ton handicap? Je vois que tu as une canne pour te promener. Ouais.
Je vais faire un peu de la pub, hein, parce que c'est une maladie rare, hein, c'est la maladie de Stargardt.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, je dis ça parce que, en fait, on a mis un peu de temps à découvrir cette pathologie. On a du mal à la comprendre, à voir comment elle évolue. Elle ressemble énormément à la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Ah ouais, d'accord.
Donc, ça ressemble beaucoup. Ce que je vois, j'ai la chance quand même d'avoir encore une perception de la lumière, des couleurs et des formes. Après, à moi...
Tu vois mon pull orange, là? Tu vois que j'ai un pull orange.
J'ai pas trop vu.
et alors, j'ai lu une petite phrase qui me plaît beaucoup, que tu avais marquée dans un journal, dans la presse. Tu as en fait une vision, tu vois comme un chat. Comme un chat le voit la nuit, en fait. C'est rigolo, ça, l'image d'un chat qui voit la nuit.
Bah, je pense qu'en fait, petite, j'ai compris rapidement qu'il y avait un petit souci au niveau de mes yeux. Et je l'ai bien saisi jeune. Mais en fait, j'étais... Du coup, je me suis dit, mais j'ai une vue incroyable. Parce qu'en fait, moi, je vois des choses que les autres ne voient pas. Et en fait, c'est grâce à ça, grâce à mon imaginaire et à mon... À m'inventant des histoires et que j'ai pu, je pense, surmonter tout ça. Et en fait, ça développe l'imaginaire.
Ouais.
Et ça, c'est quand même merveilleux.
Ouais, c'est génial d'avoir de comme ça. Et le piano, en fait, c'est un peu ta thérapie, alors, pour cette maladie? C'est quelque chose qui... On peut dire ça comme cela ou pas?
Bah, d'une façon, d'une certaine façon, oui, parce que quand même, la réalité, c'est que quand on voit mal ou pas, on est quand même, on loupe pas mal de choses, quoi. C'est-à-dire que socialement, c'est pas toujours évident. En plus, on n'a pas, enfin, l'image n'est pas un soutien dans ce lien-là. Et donc, du coup, le piano, moi, me permet vraiment de voyager.
Ah, mais justement, que tu parles d'un mot voyage, je vais te faire voyager avec une musiquette. On va demander à Thomas de nous mettre une belle musiquette du fado. Et tu me diras pour quelle raison tu aimes le fado. Un jour, tu es parti au Portugal pour rencontrer une grande pianiste, tu en parlais déjà tout à l'heure, qui t'a appris en fait à te comporter devant un public, on peut dire ce qu'elle t'a donné des clés pour faire des concerts, on peut dire ça de cette manière-là, Caroline.
Alors, Maria Jo Pires.
Ouais.
Alors, bien sûr, il y a les concerts, mais avant tout ça, moi, je l'ai rencontré à un moment de ma vie où j'étais un petit peu perdue. J'étais un petit peu perdue sur tout point, c'est-à-dire personnellement, au niveau du piano aussi, j'avais beaucoup de questions, j'étais en colère beaucoup, enfin, voilà. Et elle m'a invitée dans son centre d'études pour les arts à Belgaiche, donc c'est près de Castelo Branco, au Portugal. Et en fait, là, elle m'a dit, bien. Viens, ici t'es en sécurité, t'as le temps, tu peux rester le temps que tu veux. Viens, mais voilà, on va jouer. Mais elle m'a permis en tout cas de m'abandonner un peu. Et ma première leçon, elle s'est mise derrière moi et elle m'a pris la tête et elle m'a dit « Mais pourquoi tu regardes tes mains quand tu joues alors que tu les vois pas ?»
Ah ouais, c'est intéressant, ouais. Et là, t'as pris conscience.
Et là, j'ai compris qu'en fait, j'écoutais pas.
Ah
et,
ouais.
Et je pense que la plus belle chose
qu'elle
m'ait dit, qu'elle m'a transmise, c'est ça, c'est en fait que d'écouter.
Et parle-moi juste un petit peu, avec les yeux fermés, parce que je pense souvent ça à mes invités. Comment c'est quand tu es au Portugal? Comment c'est Porto? Comment c'est Lisbonne? Parle-moi un peu de ces deux villes.
Alors, le Portugal... alors, Lisbonne, c'est très lumineux. C'est...
Ah bon, tu parles de lumière?
Oui.
Waouh, extraordinaire.
C'est chaud, c'est lumineux. Porto, il y a une autre atmosphère. Porto, il y a un côté un peu tortueux comme ça, mais très mystérieux.
Ah, et ce mystère t'a fait rencontrer ton amoureux? Un corniste.
C'est ça.
Qui vient aussi du conservatoire. Qui
est... Lui, il était à Castelo Branco aussi, mais à l'école supérieure de Castelo D'accord. Branco. Et on s'est rencontrés et on devait jouer en musique de chambre ensemble, un quintet. Et en fait, je ne le savais pas. Et donc, du coup, on ne s'est jamais rencontrés. Et jusqu'au jour, il m'a dit, mais c'est toi la pianiste avec qui je devais jouer. Et voilà.
Et c'est grâce au fado, en fait, que tu l'as. Cette belle musique portugaise, ça fait rencontrer les amoureux, ça.
Voilà. Ouais. Alors après, le Portugal, vraiment, c'est un pays dans lequel je me sens presque chez moi. C'est-à-dire, je me sens en sécurité, je me sens en famille.
Ah ouais, t'as ta belle famille et là-bas, quoi. Ouais, ouais.
C'est vraiment un... Ouais. Ouais. Les Portugais sont très joyeux, extrêmement
joyeux.
C'est
chouette, ça.
Ouais. Malgré le fado très mélancolique.
Ouais, un peu tristesse,
triste,
quoi.
Oui,
ouais,
bien sûr. Il y a la saudade.
Ouais.
Et le fado, c'est ça.
On va aussi parler un tout petit peu de tes concerts. Tu vas de Vienne à Londres, à Paris. Tu es un peu partout. C'est extraordinaire de voyager comme ça, de jouer devant un public. C'est génial, franchement.
Eh bien, oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai aussi rencontré des gens merveilleux qui m'ont aidé, qui croient en moi, avec qui je partage la musique très sincèrement. Et donc, pour ça, j'ai beaucoup de chance et de voyager alors encore plus parce que ça permet de rencontrer de grands artistes, d'autres musiciens fabuleux.
C'est avec ça que tu grandis encore et encore.
Oui.
Avant de... Parce qu'on a beaucoup papoté déjà, on est presque à la fin de notre émission, je vais te faire écouter une musique un peu décalée, complètement décalée. Vas-y Thomas, mets-nous cette belle petite musiquette avec Bobby Lapointe.
Sur ce piano, les touches tièdes.
Les touches tièdes.
Ton air est bon, mais mon shampoing.
Tu vois, il parle aussi de touches de piano. Tu vois, je comprends que tu aimes cette musique. C'est décalé, c'est bien. Ça change un peu de Mozart et de Schubert et de Mahler. C'est bien d'écouter des Bobby Lapointe.
Oh, ben ça, c'est un petit clin d'œil à mes parents parce qu'ils ont rencontré Bobby Lapointe.
Ah, génial.
Voilà. Et donc, ça a bercé mon enfance aussi. Et donc, je chantais ça sans bien même comprendre ce qui.
Sous la douche aussi, sous la douche avec le gant de toilette.
Par exemple.
Ouais, alors, écoute, je voulais aussi te poser un petit peu, quels sont tes projets 2023, comment ça se passe, qu'est-ce que tu es prof de musique aussi à Struchtersheim, comment ça se passe cette année pour toi?
Ça, elle se passe bien parce que vraiment, après les années qu'on a passées, je suis vraiment ravie de pouvoir retrouver un élan musical et de pouvoir jouer à nouveau.
T'as des concerts de prévu là prochainement?
Oui, on a des concerts avec mon duo Mélimano, donc avec Samuel Aznar, avec qui je joue en quatre mains. On en a au mois d'avril, au mois de mai à Strasbourg. Alors après...
À quel endroit? C'est quoi? Parce que les gens ont peut-être envie de t'écouter. C'est où à Strasbourg?
Oui, alors il y a l'école Michel à Strasbourg qu'on soutient aussi.
D'accord.
On aura une date, j'attends un petit peu, à la salle des fêtes de Eunheim.
Ah ouais, ouais. Et l'étranger un peu aussi, pour l'instant, t'as des contacts?
Au Portugal, oui.
Au Portugal, tu retournes?
À Lausade, au théâtre.
Avec ton mari aussi, le corniste? Ou c'est deux choses différentes? Ça ne s'accorde pas au piano?
Non, c'est deux choses différentes. C'est plusieurs projets, on va dire. Et non, ce qui est... Au niveau des dates et des projets, en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, toute cette période un peu difficile a été quand même très...
Très compliquée,
compliquée. Ouais, ouais, et aujourd'hui, pouvoir rencontrer... j'ai rencontré Samuel suite à cette période-là et Anne Cantino aussi. Et en fait, on est encore en programmation. Enfin, on cherche encore voilà.
Bah écoute, en tout cas, on a passé presque une demi-heure ensemble, un doux moment. C'était très intéressant de te rencontrer, de parler avec toi, d'écouter ta passion, ta musique. Et je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. On va mettre le petit générique de fin, Thomas, si on a encore le temps. Merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie. Merci.
Voilà.